spiritualité sur RCF Nice Côte d'Azur. Avec le père Vincent Paul Tocoli, qui nous propose une méditation autour de son livre Petit traité de la compassion.
L'un des avatars philologiques du mot « dolor » en terre gallo-romaine est d'avoir à désigner la douleur et le deuil, selon qu'il l'articulait en langue d'oc ou en langue d'oil. La peine éprouvée et la peine signalée. Ainsi, le deuil renvoie à la douleur qu'il signifie, et essentiellement une douleur de devoir perdre. Être en deuil, c'est avoir douloureusement perdu. Porter le deuil, c'est l'indiquer aux autres. En revanche, faire son deuil de quelque chose ou de quelqu'un, c'est finir par y renoncer, avec un assentiment de la volonté, quelque douloureuse que soit la perte, et quelque peine qu'écouter la résolution de s'en détacher. Devoir se résigner à perdre, subir, et d'autant plus douloureusement le deuil, c'est qu'on a été surpris sans y être préparé, ou qu'on n'a pas su ou pas voulu reconnaître ses signes avant-coureurs. Se propage alors autour de lui une atmosphère d'injustice diffuse, plainte contre X, comme un sentiment de fatalité avec relent de déception. On était persuadé que cela n'arrive qu'aux autres. Le deuil n'est plus que le constat d'une effraction imméritée, d'un événement fatal, d'une erreur du destin. Incapable de confesser son impréparation, chacun doit accuser le sort, chacun se doit d'accuser le sort. Payer ses factures, des réceptions, faire réviser régulièrement sa voiture ou son cœur, réserver un titre de voyage ou une chambre d'hôtel, est une affaire de discipline personnelle. Si le deuil se transforme en signe de mon laisser-aller ou de mon imprévoyance, il ne pourra être vécu que négativement, c'est-à-dire avec du regret, du remords et de la mauvaise conscience. Il se muera vite en lamentation et en auto-déresponsabilisation. En partant, l'autre m'abandonne. Et si je reste seul, c'est de sa faute. Regretter l'autre, alors, c'est d'abord lui en vouloir des liens que nous avons tissés avec lui. Accompagner celui qui souffre ou qui se meurt m'offre enfin l'occasion de me demander si je sais, si j'ai appris à cultiver en moi, au cours de mon existence quotidienne, qu'il me faut, c'est même mon intérêt, par nécessité vitale, me détacher, me libérer, me dépouiller en permanence de tout ce que j'accumule, emmagasine et possède, de tout ce dont je dispose, tant au plan matériel qu'affectif et spirituel, père, mère, frères et sœurs, famille, mari, épouse, enfant, ami, ainsi qu'amour, tendresse, certitude, croyance. Je préfère à cette idée m'y entraîner, trancher délibérément pour ne pas me retrouver un jour, demain, tout à l'heure, défait, pillé, violé. Vivre fondamentalement convaincu que je suis né nu et que je m'en retournerai nécessairement nu et qu'il n'y a aucune raison de ne pas utiliser tout ce dont j'ai besoin et tous mes dons, mais avec la distance intérieure qui me gardera toujours de tomber sous leur dépendance, une distance susceptible d'établir entre moi et le monde, tout le monde, entre moi et la création, toute la création, entre moi et tous les objets de culture, toute la culture, la différence fondamentale qui me constitue dans la liberté et signifie que B, un abîme incommensurable entre ce que je suis et ce que j'ai. Tâche première et toujours ultime, de n'exister qu'en fonction de la vie et non de ses aléas. Si je ne constate pas en moi profondément ancré, implanté, enraciné, ou si je n'ai pas acquis, quel qu'en fût le biais, cette évidence de base que rien ne tient en dehors de la vie, j'aurai beaucoup de difficultés, pour ne pas dire brutalement que je serai parfaitement incapable à aider un autre, cet autre que j'accompagne, mon alter ego, mon autre moi-même, moi autre, à faire le deuil, à trancher. Car le deuil, tout bien considéré, consiste à réintégrer l'origine en retrouvant l'intégrité primordial. Vécu de la sorte, le deuil provoque des retombées positives, dont la première est le marquage de mon autonomie. Il n'exclut nullement la peine, mais la tristesse. Il ne dispense pas de hurler, mais attend seulement. Il fait articuler des paroles qu'un cœur captif croira et de bonne foi irrévérencieux, voire scandaleux, comme celle de devoir convenir sans s'effondrer de désespoir que sans mère ni père, que sans mari ni femme, on peut vivre fort bien, même si autrement. Mais porter sa tristesse en bandoulière et ne plus cesser de pleurer, tout cela prouve, en plus de la peine, que notre attachement nous ligotait, en fait, à une vie que nous avions crue nôtre, alors qu'elle était aliénée. Le temps s'est arrêté au moment de la perte. Si perdant l'autre, nous perdons tout, c'est que nous ne vivions plus depuis bien avant la perte. Et cela rend un son terrible, hein. Et c'est pourtant la seule vérité. Mais juger cette réflexion étrange, inhumaine, fausse, ne serait-ce qu'excessive, c'est être prêt à ne faire jamais le deuil de qui que ce soit. Restez libre vis-à-vis de ceux qu'on aime et qui vous aiment. Se libérer d'eux, s'il le faut, est une condition pour continuer à les aimer. N'être pas toujours prêt à se détacher d'eux, partir, laisser, quitter, c'est exclure d'être jamais libre. C'est n'avoir jamais perçu la voie d'une volonté plus grande, d'une raison plus haute, d'un amour plus fort. Toutes les décisions ne s'originent pas dans la chair et le sang. Il se trouve que chacun, chacune, est le fils, la fille d'un père, cet homme-là, et d'une mère, cette femme-là, et les remercie pour le don d'une vie reçue. Mais en dépit de toute reconnaissance, si la façon dont les parents aiment leurs enfants les entrave dans la conquête de leur autonomie et de la liberté, cet amour est mauvais. Intolérable, inadmissible. Si l'amour est nécessaire, il n'est jamais suffisant. Il est préférable pour mener une vie sainement libre de renoncer à ce qui peut paraître important, et qu'il est indéniablement souvent, pour ne retenir que ce qui peut être reconnu comme l'absolu nécessaire. La pratique de la vie seule montrera comme pour un nécessaire de voyage, que cela se réduit à peu de choses, un ou deux visages indélébilement mémorisés, une voix ou un air, une couleur, un paysage entrevu lors d'un voyage, l'odeur chaude d'une brioche, la pluie sur le carreau un jour de grippe, un livre peut-être. Le tout embaluchonné dans une ou deux certitudes bien solides. Tout est vie, tout peut devenir de l'être, si je le deviens. On est ce que l'on est devenu. C'est dans le temps, cette mémoire vive. Chacun en a connu, des personnes, des lieux, des expériences. Et la mémoire même qu'il en a transformé son être propre. Il ne peut même plus se comprendre lui-même sans tous ceux et tous ceux qui l'ont fait, en déplaçant en lui une bascule ontologique. Il est capable alors de passer d'un état à un autre état, accompagné lui-même en ce passage par celui qu'il accompagnait à parfaire sa tranchée. On se sépare aussi sur les chemins de la compassion. L'accompagnant dit et se dit alors, tu sais, si j'avais souvent la parole, n'oublie pas que la tienne résonnait sans arrêt au fond de moi. Et je sais que la mienne était souvent en fait l'écho de ta propre parole. Peut-être ne faisions-nous que compatir l'un avec l'autre, nous passant la parole comme un bâton de pèlerin. Vois-tu, j'ai souvent cru me parler à moi-même, à l'autre en moi, me souhaitant pour ma tranchée la même résolution de présence, de paix et de silence. Ça doit être quelque chose comme ça, le courage. Je me suis souvent vu partir avec toi, n'attendant rien et tout, ne sachant plus très bien, mais disposé à cadencer mon souffle au rythme du tien. Souvent aussi, j'ai cru entendre entre nous vibrer comme un frisson, peut-être parce qu'une porte, là-bas, s'était ouverte. L'accompagné se dit alors, je vois sur la grande table la lourde nappe dépliée, achalandée par Dieu sait quel grenier comblé, opulente de Dieu sait quel secret. Je vais approcher des places réservées, je voudrais voir la mienne depuis ici déjà. L'accompagnant dit alors, enseigne-moi le tracé minutieux des nouvelles frontières. Plus tu t'avances vers là-bas et moins je te suis, je chancelle. En prenant du champ devant moi, tu éclaires ce dont je me doute même pas encore. Il faut donc tout quitter pour nous voir autres. Je garderai le temps qu'il faudra ma lampe allumée. Je ne la laisserai pas se consumer en vain. Je crois que tu m'as appris l'économie. Pas l'avarice. Je veillerai sans gaspiller mes réserves. Je planterai la lumière comme un fanal sur la tranchée. Voici le temps de se démettre même de la compassion pour s'en remettre enfin à la miséricorde et célébrer la vie. Commencé le 3 juillet 91 à la Croix-Valmer pour la Saint-Thomas. Achevé le 25 mars 96 à Hong Kong pour l'Annonciation.